Bon, excuse-moi, Carole, je voulais pas usurper ta place. Le temps d'adoration, on va l'en faire après? Après la prédication aussi? Oui. Ouais. On va garder du temps après. C'est une bonne chose. On va garder du temps après. OK, avant qu'on aille plus loin, j'ai eu quelques personnes qui sont venues aussi me donner quelques annonces. On a... c'est quelle date, Marc? Samedi, le 25 octobre, journée porte ouverte à l'école L'Eau Vive. Vous avez des enfants d'âge primaire, secondaire. Vous avez déjà entendu parler de l'école L'Eau Vive. Peut-être sur la nouvelle formule aussi d'école privée. Vous pouvez venir voir qu'est-ce que ça a l'air, regarder, prendre des informations. Ça, c'est samedi prochain. À quelle heure? C'est l'après-midi. Alors, vous pouvez vous présenter l'après-midi, puis il y aura des gens pour vous accueillir, pour vous présenter ce que l'école L'Eau Vive fait. On soutient justement aussi par notre offrande d'action de grâce l'école L'Eau Vive. Une autre annonce aussi, on a l'église de Pont-Rouge qui a des besoins, une église sœur. Samedi prochain aussi, ils ont des besoins pour reconstruire le toit. Ils ont tenté de le faire, ils sont pas assez nombreux. Ils ont besoin d'hommes et de femmes capables de construire. Alors, vous pourriez donner vos noms à Bertrand Massé, qui pourrait prendre vos noms. Et puis aussi, c'est une bonne chose que d'aller aider une église sœur et puis d'offrir ce soutien-là entre assemblées, puis d'aller leur donner un coup de main pour refaire leur toit d'église. Alors ça, c'est samedi prochain. Alors, bon, c'est tout pour le surplus des annonces. J'ai eu un problème d'auto, là, quelques mois, et puis j'ai magasiné un peu pour trouver ma pièce que j'avais de besoin. Hein, c'était la pompe à l'eau. Et là, j'ai appelé à différents endroits, peu importe quels sont les endroits. Généralement, le prix variait entre 100 et 150 $ de la pièce que j'avais de besoin. C'était des pièces d'origine, des pièces qui pouvaient faire un bon travail. À un moment donné, j'appelle une place, super bargain, 25 $. La pièce est neuve, il semble y avoir pas de problème. Et puis, moi, je suis content de ça. Fait qu'évidemment, je viens d'épargner beaucoup. Et je suis allé acheter cette pièce-là que j'avais de besoin. Ce que j'ai réalisé par après, dans mon ignorance, c'est que c'est des pièces, je sais pas si, je connais pas l'équivalent en français du jobber, des pièces qui ne sont pas authentiques. Des pièces qui font en sorte que c'est une belle copie, c'est quelque chose qu'on a imité, c'est quelque chose qu'on a créé pour faire un travail. Mais le problème de ces pièces-là, comme toute copie qui existe, est malheureusement faible et pas très très performante. Et là, justement, je commence à entendre justement ma pompe à l'eau qui recommence à faire du bruit. Et ça fait pas longtemps que je l'ai changé. Mais il y a des choses comme ça dans la société. Par exemple, le phénomène de copier ce qui est authentique est croissant. Hein? Si vous allez dans différents pays du monde, vous pourriez avoir, par exemple, peu importe quel est le type de vêtement d'un couturier, vous pourriez avoir une copie à moindre prix pour quelque chose qui est évidemment aussi beaucoup plus cheap. Ce que l'on a, ce que Dieu nous accorde, ce que Dieu veut que l'on soit, c'est l'authenticité. Ce que le monde nous propose, c'est des fois c'est des choses qui sont alléchantes hein, pour nous, parce qu'on peut l'avoir à bas prix, on peut l'avoir facilement, ça s'applique facilement dans nos vies, mais malheureusement, ça ne dure pas longtemps non plus. Ce matin, je veux introduire un sujet de, disons, une mini-série à double volet que je veux entamer, qui est l'homme de courage et la femme d'influence aussi. Dieu veut que l'on soit des hommes de courage, des hommes authentiques comme ce que lui veut que l'on soit aussi. C'est justement ce qu'on va commencer ce matin. Avec deux exemples dans les Écritures, on va voir aussi la femme d'influence. Alors justement, deux personnages qui sont dans les Écritures, à une période donnée très semblable, qu'on va voir l'homme de courage avec Néhémie. Je vous invite déjà à tourner dans Néhémie 1 avec moi. Pour faire la série simultanée avec la femme d'influence, on va utiliser le livre d'Esther. À travers ces personnages-là, on voit que la main de Dieu a été efficace dans leur vie. Elle a été puissante dans leur vie. Et pourquoi est-ce que Dieu a utilisé Néhémie? Pourquoi est-ce que Dieu a utilisé autant que ça aussi Esther? Qu'est-ce qu'ils avaient qui plaisait à Dieu, que Dieu a utilisé, puis que nous aussi, on peut regarder leurs exemples puis dire « Moi aussi, je veux ressembler à ça. Moi aussi, je vais être un homme authentique, un homme de courage. On pourrait se poser la question aujourd'hui, cette question-là, c'est quoi un vrai homme? C'est quoi une vraie femme? Qu'est-ce qui conduit le vrai homme? Qu'est-ce qu'il mange? Quel type de travail est-ce qu'il fait? Et ce n'est pas nécessairement ces questions-là que Dieu va répondre pour déterminer ce qui est un vrai homme, ce qui est une vraie femme, un homme authentique, une femme authentique. Et puis, en même temps, j'aimerais qu'on puisse quand même regarder les Écritures. Vous êtes une femme ce matin, puis vous dites, bon, ce matin, on parle d'un homme de courage, un homme authentique. Mais ça va vous concerner aussi. Je pense que c'est pertinent pour tout le monde que de comprendre c'est quoi un homme authentique, c'est quoi une femme authentique. Parce que si j'ai une relation avec un homme, mais je vais comprendre les attentes que Dieu a pour cet homme-là. Si je suis un homme et puis que il y a une prédication pour ce que c'est d'être une femme authentique, une femme d'influence, mais c'est pertinent pour moi de l'entendre aussi, de savoir quelles sont les attentes de Dieu envers la femme aujourd'hui. Et évidemment, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Et évidemment, je peux clarifier aussi tout de suite en partant, puis vous le comprenez déjà, je ne veux pas prêcher mon exemple. Je tends moi aussi à devenir un homme de courage. Je tends moi aussi à marcher de plus en plus vers ce qui est parfait. Mais ce que je prêche, c'est pas mon exemple, c'est les Écritures. Alors, je peux prêcher par mon exemple, mais je vais prêcher les Écritures. Et si vous avez trouvé déjà Néhémie 1, on va voir ce matin qu'est-ce que c'est qu'un homme de courage. Vous avez peut-être lu dans le bulletin, quel est mon titre, « L'homme de courage est celui qui plie les genoux ». Voici le point de départ d'un homme de courage. Je vais m'expliquer par la suite. J'aimerais qu'on fasse un mot de prière en commençant. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour te remercier. Tu es un grand Dieu. Tu prends soin de nous, Dieu. Et ce que tu désires de nous, c'est des vies authentiques. Tu veux que l'on vive, Seigneur, comme ce que tu nous as créé. Tu as des attentes envers nous. Dieu, on veut les comprendre. On veut comprendre qu'est-ce que tu as à nous dire ce matin. On veut ouvrir ta parole et on te demande de nous parler clairement. Chacun d'entre nous, que tu mettes ton doigt dans nos vies, qu'on comprenne c'est quoi que tu veux que l'on change. Qu'on continue de marcher, de persévérer, Dieu. Et qu'on puisse te glorifier aussi en portant beaucoup de fruits. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen. C'est nécessaire dans notre assemblée que d'avoir des hommes de Dieu, d'avoir des hommes de courage. C'est nécessaire, si vous êtes en mariage, c'est nécessaire que les maris soient des hommes de courage aussi, des hommes authentiques comme ce que Dieu le désire, des pères aussi, que ce soit des hommes de courage dans leur rôle de père et même dans notre société aussi. Évidemment, tantôt je parlais de ce qui nous est offert en échange de quelque chose de beaucoup plus facile, hein? Des pièces de moindre qualité qu'on peut avoir beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et puis, ce que la société tend vers l'homme aujourd'hui est quelque chose de facile, quelque chose qui est très futile, quelque chose de très illusoire aussi et qui n'est pas authentique, mais qui est peut-être facile d'accès. Mais on veut revenir à ce qui est authentique. C'est quoi que Dieu s'attend d'un homme de courage? Avant de se relever les manches, on a besoin de regarder comment est-ce que, par exemple, Néhémie était. Avant de regarder comment est-ce que Néhémie s'est relevé les manches avant d'agir sur son peuple, on va regarder qui il était, qu'est-ce qu'il avait dans sa personne qui a plu à Dieu. L'homme de courage est celui qui plie les genoux devant Dieu. Juste avant qu'on lise, on va lire de façon un peu, c'est-à-dire pas nécessairement systématique, là, à partir du verset 1. On va lire le verset 1, après ça au verset 11. Juste avant qu'on lise, j'aimerais donner le contexte. Okay? On fait l'introduction du livre de Néhémie ce matin. On se trouve, si on recule plusieurs années en arrière, il y a eu la division du royaume. Hein? Avant, il y avait un seul royaume qui était Juda et Israël. Il y avait un seul royaume, un seul peuple. Et à un moment donné, après Salomon, il y a eu la division du royaume. Le royaume du Nord, le royaume du Sud. Suite à cette division-là, le royaume du Nord a abandonné l'Éternel d'une façon définitive à partir de ce point-là. Juda, pour lui, qui était le royaume du Sud, a continué de marcher. Quand même, il y a eu des bons rois, il y a eu des mauvais rois en Juda, mais il a persévéré plus longtemps, s'étant attaché aussi à l'Éternel. Alors, les 10 tribus du Nord, Dieu les a punis, les avait déjà prévenus en disant que si vous m'abandonnez, je vais vous disperser. Et c'est ce qui est arrivé. Dieu est venu chercher le royaume du Nord par des peuples étrangers. Ils sont venus les prendre puis les ont dispersés. Alors, ça s'est passé sur plusieurs années. Et à un moment donné, 395 ans après la division du royaume, mais les Babyloniens pays finalement détruisent Jérusalem qui est dans le royaume du sud et puis vont déporter Jérusalem et puis vont déporter aussi le royaume du sud à Babylone. Alors on a déjà entendu parler par exemple de Daniel qui est à Babylone. À un moment donné, les Babyloniens perdent contre un autre peuple qui est grandissant qui est les Perses. Alors les Perses prennent le pouvoir à ce moment-là. Et là, on se trouve justement dans une période de déportation du peuple d'Israël, autant du royaume du Nord que du royaume du Sud. La reine Esther est arrivée à un moment donné où ce que le peuple juif a été menacé d'extermination d'une façon complète. On se trouve justement dans la période de dispersion. Hein, le peuple est dispersé. Puis on a la reine Esther qui va intervenir elle-même qui est dans un autre pays qui est juive pour parler pour son peuple. On verra la reine Esther justement dans cette série-là un peu plus loin avec la femme d'influence. Mais il y a eu un premier retour avec Zorobabel puis Josué, un premier retour de la dispersion et peut-être 50 000 à peu près. Ensuite de ça, il y a Esdras qui est revenu et là on arrive à Néhémie. Okay, c'est tout le contexte un peu historique, je passe des parties, là. Mais Néhémie va revenir après plusieurs mêmes tentatives de retour. Il y a eu un retour, comme je disais, de 50 000. À un moment donné, un peu plus tard, le temple est reconstruit. Mais le problème, la ville, elle souffre beaucoup. La ville de Jérusalem, qui est le centre, qui est la capitale de Juda, ben elle souffre beaucoup. Les gens qui sont à Jérusalem sont malmenés, persécutés. Les murailles de la ville viennent pas à bout que d'être reconstruites après même plusieurs tentatives. Et Néhémie, on se trouve dans cette période-là maintenant de Néhémie. Alors, le contexte spirituel, social, économique, le temple est reconstruit. Le territoire de Juda, c'est un petit territoire. La loi de Dieu a été mise de côté. Bien que les gens soient revenus, les gens ne suivent pas encore nécessairement la loi. On va voir un petit peu plus tard dans Néhémie que les frères vont exploiter les frères aussi. Ils vont malmener leurs propres frères. Alors, ça, c'est une des évidences que la loi a été mise de côté. Puis les Juifs vivent, bien qu'ils sont de retour à Jérusalem, sous la domination perse. Alors, on va voir dans le thème, des différents thèmes du livre, par exemple, la prière. Néhémie est un homme de prière. On va voir l'œuvre de Dieu. Ce sont des thèmes du livre qui reviennent régulièrement. Et aussi l'opposition à l'œuvre de Dieu avec Néhémie. Néhémie est un homme de courage. Est-ce qu'en tant qu'homme, est-ce que vous êtes des hommes de courage? C'est quoi le courage? Est-ce que c'est quelque chose... des fois, je me surprends à prier moi-même dans des situations plus difficiles. Donne-moi du courage. Je pense que je peux demander ça à Dieu. Je pense que Dieu, il veut entendre ça de moi. Il veut que j'aie cette relation-là avec lui où est-ce que je vais lui exprimer aussi mes faiblesses. Mais en même temps, je reconnais bien que Dieu me dit, prends courage et fortifie-toi. Mais là, Dieu, j'ai peur dans cette situation-là. J'ai besoin de courage. Puis Dieu me dit, mais prends courage. C'est quoi le courage finalement? Peut-être que quand on demande à Dieu, donne-moi du courage, c'est qu'on aimerait que ça soit facile, puis qu'on n'ait pas peur dans la situation, puis qu'on y aille tout bonnement. Mais le courage, c'est justement la définition de faire ce qui nous fait peur. De faire ce qui nous fait peur, de faire les choses qui peut-être nous sont difficiles, puis on va user de courage. Imaginons Josué qui entre par exemple à Jéricho, puis Dieu lui dit, fortifie-toi, prends courage. Josué, il devait probablement avoir peur, mais il s'est confié en Dieu et puis il est allé. Un homme de courage, c'est ce que Néhémie était aussi. Qu'est-ce qu'on sait de Néhémie? Première des choses, qu'on va voir trois choses. Je peux vous dire les trois choses qu'on va voir tout de suite de Néhémie. Néhémie, c'est un homme de caractère. Première chose qu'on va voir. Néhémie est un homme opportuniste. Ça sonne un peu négatif quand on les entend comme ça, là, mais on va expliquer ce que je veux dire. Un homme de caractère, un homme opportuniste, puis un homme de prière. Premièrement, un homme de caractère. Regardez avec moi Néhémie 1, on va lire les deux premiers versets. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Première des choses, on s'en va juste un petit peu plus loin. Au verset 11, « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Un homme de caractère, une chose qui est authentique. Le courage vient avec un caractère qui plaît à Dieu. Dieu veut qu'on ait un caractère qui lui plaise. Néhémie était né dans, puis a grandi aussi dans la Mésopotamie. Et puis, on ne connaît pas nécessairement grand-chose de son père, mais on comprend qu'il a dû recevoir quand même instruction de son père sur la loi de Dieu. On va comprendre ça aussi avec sa prière. Mais Néhémie a grandi dans la Mésopotamie. Il n'a pas grandi à Jérusalem. Il est mentionné nulle part ailleurs aussi dans les Écritures, Néhémie. Et puis, ce qu'on vient de voir à la fin du verset 11, il occupait une fonction importante. Laquelle? Échanson. C'est quoi un échanson? Celui qui donne le vin. Un échanson, en regardant un peu ce que les historiens donnent, c'était un officier qui versait le vin dans la coupe et qui l'offrait au roi. Pour être échanson, est-ce que n'importe qui peut faire ça? Imaginez-vous avoir un roi, là. Et c'est pas n'importe qui s'approche du roi. Néhémie est celui qui verse le vin puis qui le donne au roi. Ça devait être un homme absolument de confiance, un homme de bon caractère, un homme qui voulait plaire à son roi. Néhémie, il n'est pas dans son pays. Néhémie, t'es pas mon roi de nation, mais Néhémie est un homme qui plaît quand même, qui est un homme agréable, un homme qui est fidèle et qui est intègre aussi. Certains vont dire que cette fonction-là était très importante puis requérait la plus grande intégrité. Un officier manquant d'intégrité aurait pu se laisser corrompre, par exemple, par des ennemis pour empoisonner le vin. Certains vont dire que l'échanson est un peu considéré comme presque le premier ministre du pays. Un homme très important, il ne fait pas juste que donner le vin, c'est pas juste un simple serviteur, c'est un homme qui a une direction aussi dans le pays, un homme qui est près du roi. Néhémie est un homme au service du roi. Mais quel est son caractère? Évidemment, son tempérament a été vu par les gens près de lui. Son caractère l'a fait amener près du roi. Mais Néhémie, comment est-ce que lui se voit premièrement? On vient de lire dans le verset 11, on va le relire. « Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Dieu, je suis ton serviteur. » Je suis ton serviteur à toi. Oui, je suis serviteur du roi. Il va le dire juste un peu plus loin. Pour être l'oreille à ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Je suis premièrement le serviteur de Dieu, puis je suis deuxièmement le serviteur du roi. Voici le caractère de Néhémie, un homme de caractère, un homme qui a un caractère qui plaît à Dieu, qui est intègre, qui est fidèle, qui est reconnu dans son témoignage aussi avec les gens qui sont près de lui. Mais pourquoi? Parce qu'il est premièrement fidèle à Dieu, parce qu'il est premièrement un serviteur de l'Éternel. Il est attaché à lui aussi. Néhémie se voyait comme le serviteur du Dieu vivant. Néhémie, ses hommes étaient des hommes qui craignaient Dieu. Néhémie ne s'en tient pas à une belle prière sans lendemain, mais présente une requête spécifique à Dieu, prêt à se mettre à l'œuvre. Regardez juste un petit peu plus loin. Gardez un doigt dans Néhémie 1 et puis allez dans Néhémie 7. Juste une phrase. Mais regardez le type d'amis que Néhémie aime avoir auprès de lui. Quel type d'amis, quel type de caractère est-ce qu'il veut avec les gens près de lui? Verset 2, chapitre 7, verset 2. Oui, ce sera pas long. Je donnais mes ordres à Hanani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem. Homme quoi? Homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Voici un homme que Néhémie voulait avoir près de lui. Un homme supérieur au grand nombre à cause de quoi? À cause de sa fidélité puis de sa crainte de Dieu. Voici un type d'homme que Dieu recherche. Voici un type d'homme que Néhémie recherchait. Un homme de caractère. Un caractère qui plaît premièrement à Dieu. Pas un homme de caractère. La société voudrait nous dire qu'un vrai homme, c'est un homme de caractère capable de mettre son poing sur la table et de parler fort. Mais le caractère que Dieu recherche, c'est de la crainte de sa personne. C'est d'être un serviteur de sa personne. D'être fidèle à lui aussi. Et de le servir, de marcher pour lui. Néhémie avait une bonne connaissance des Écritures. Il connaissait l'histoire de son peuple. Il avait une bonne attitude aussi dans son travail. Regardez, revenez dans Néhémie au début. Là, on va juste lire un verset au chapitre 2, verset 1.